Europe 1.
L'adolescence est une étape charnière de la vie. Pour beaucoup, elle est synonyme de liberté. C'est le temps des premières fois, mais aussi celui des conflits et des questionnements. C'est une période de fragilité où les limites peuvent parfois être franchies de façon extrême, avec le risque de mettre sa vie future en péril. Comment se sont-ils relevés de leur erreur de jeunesse? Et comment leurs choix d'adolescents ont changé à jamais le cours de leur vie? Et quelles sont les conséquences sur leur quotidien et sur leur entourage? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Philippe. Cet amateur de sport de combat a pris très jeune goût à la violence, jusqu'à sombrer dans la criminalité. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Philippe.
Bonjour Olivier.
Bonjour, comment allez-vous?
Bien et vous?
Ça va, le soleil est,
oui, parmi nous.
Est au rendez-vous.
Si Philippe est aujourd'hui quelqu'un de particulièrement costaud, cela n'a pas toujours été le cas. À l'école primaire, il souffrait d'un retard de croissance qui lui a valu d'être la cible de ses camarades de classe, dont il était devenu la tête de turc.
C'était de la moquerie, c'était parfois des coups que j'encaissais sans dire grand-chose parce que j'avais pas forcément les moyens non plus d'y répondre. J'avais pas la capacité physique parce que c'était souvent des plus grands et souvent plus nombreux. J'étais seul. Du coup, je prenais encore un peu plus de coups. Dont une fois où des plus grands m'avaient mis un coup de pied dans le ventre et je suis rentré le soir chez moi. Et pas bien du tout, psychologiquement, physiquement. Et là, mon père me demande ce que j'ai. J'ai un peu de mal à lui avouer quand même.
Par orgueil, donc.
Par orgueil, ouais, parce que pour moi, j'étais une victime.
Ouais.
Et pour lui, on est soit un loup, soit un mouton.
Votre père vous dit, Philippe, tu prends un coup, t'en remets 10.
Oui, c'est ça. Pour qu'on sache à qui on a affaire et que les gens comprennent que t'es pas la bonne cible. Donc du coup, pratiquement presque le lendemain, je retourne à l'école. Là, limite, du coup, je vais chercher le conflit parce que je veux montrer justement ce que mon père m'a dit, être celui qui en met 10 quand on lui met un coup.
Ouais.
Et du coup, je vais commencer un petit peu à aller chercher cette violence. Mais ça vient crescendo. Du coup, j'ai des plus grands qui reviennent. Et là, en fait, je me vois me battre avec, parfois, ils sont 5-6, je me lance et j'y vais. Alors parfois, ça fait sourire. Mais ceux qui prennent les coups, apparemment, ils les prennent bien et ils n'ont pas envie de revenir. Mmh. Et je m'aperçois qu'effectivement, il a raison. Quand je prends une claque et que j'en mets 10, on ne me cherche plus. Et j'arrive à instaurer, par un climat de terreur, parce que je suis un petit.
Du respect.
Mais du respect.
Le fait que votre père vous dise ça, ça légitimise la violence que vous avez en vous.
Ouais. Pour moi, oui. Pour moi, à partir du moment où lui me donne son accord... parce que qu'est-ce que je risque en fait? Je risque d'être que mon père soit convoqué à l'école pour en débattre. Mmh. Et d'ailleurs, ça a été le cas, plusieurs fois. Et mon père me disait devant la directrice ou le directeur, il me disait c'est pas bien ce que t'as fait. Mais j'avais un clin d'œil. Mmh. Et derrière, il me dit je préfère que ça se passe comme ça. Et ça m'a toujours suivi.
Alors on va parler d'erreurs de jeunesse dans ce film parce que finalement, on va voir que dans votre vie, cette violence. Vous y avez pris goût et qu'elle vous a mené sur des terrains glissants parce que vous auriez très bien pu finir dans le grand banditisme.
Oui.
C'était parti pour en tout cas.
Oui, c'était parti pour. Mm-hmm. C'était parti pour. À un moment donné, j'ai eu deux voies, la voie de la raison et du bien et la voie de la criminalité même peut-être. Mm-hmm. J'étais vraiment. Ça faisait partie de mon quotidien, c'était comme ça. J'avais mes propres règles. Mmh. Mes propres règles qui étaient ancrées en moi depuis la tendre enfance.
En prenant au pied de la lettre le conseil de son père, Philippe s'est engagé sur une pente glissante. Fasciné par les films d'action américains et les arts martiaux, l'adolescent se voit comme une sorte de héros qui rend la justice à la force de ses poings. Il pratique intensément le karaté, puis la boxe. Une façon pour lui, enfant unique d'un couple qui travaille beaucoup, de pallier l'absence de ses parents.
Je pense que ça a créé une carence affective que j'allais chercher autour de moi. Donc c'était les petits copains, les petites copines. Et donc dès qu'ils étaient attaqués, je me faisais le justicier. Donc j'avais la gloire, le respect et l'amour des autres.
Et aussi le plaisir, parce que la violence...
Me procurait du plaisir.
Me procure du plaisir très tôt.
Ouais, je me sentais fort. Mm-hmm. Après une bagarre, j'étais bien.
Mais un jour, ça va déraper. Dans quelles conditions ça dérape?
C'est un petit groupe, sur une dizaine à peu près de BTS. Moi, j'avais 17 ans, et celui avec qui j'ai eu vraiment l'altercation, il avait 23 ans. Donc on avait 6 ans d'écart quand même. Il se moquait de moi, et j'avais les cheveux frisés, j'avais le pull de ma grand-mère, les chaussures. Et un jour, on se retrouve donc au réfectoire, où là, j'étais avec deux camarades. Ils arrivent, un groupe de 10. Ils commencent à s'asseoir. Il y en a un qui dit « Non, je peux pas manger en face de cette gueule de con. » Donc je vais les voir. Je leur demande, je dis « Maintenant, vous allez vous excuser. » Là, il y en a un qui se lève. Il me prend au cou. Et lui, en fait, je me suis dit « Je vais me lâcher. » Je vais me lâcher, je vais montrer. Il y avait une vitre derrière moi. Donc je sentais le danger derrière moi. Et là, je l'ai pris au col. Je l'ai retourné à bout de bras. On a fait un 180.
Ouais.
J'ai frappé une première fois. Un premier coup de poing qui l'a projeté hors de la vitre, donc la vitre elle a volé en éclats. Et là j'ai commencé à frapper, je l'ai tiré, et quand je l'ai tiré, la vitre était en biseau, hein, ça l'a scalpé. Je me suis retrouvé avec le scalp dans les mains, et quand j'arrête, j'ai du sang en plein le visage. Lui il a pratiquement ça en moins sur la tête. J'ai le scalp dans les mains parce qu'il avait les cheveux longs,
ouais.
Blonds. Ça coulait sur son visage, il perd tellement de sang qu'il se couche, et même les pompiers me disent qu'ils craignent l'arrêt cardiaque tellement il a perdu de sang. On récupère le scalp qu'on met dans de la glace, enfin ça va vraiment très très loin. Après, chirurgie esthétique, 2 ans de chirurgie esthétique,
hein.
Pour lui ça a vraiment été l'horreur. Et c'est là où à un moment donné avec mon père on s'est posé un peu, et il m'a dit « Est-ce que t'as le sentiment que je t'ai élevé ?» Et pour moi la seule référence c'était l'éducation de mon père. Je lui dis « Mais non, c'est très bien, regarde Stallone, regarde Van Damme, regarde Schwarzenegger, quand il y a un problème, le mec il le retourne, et puis voilà, là c'est ce que j'ai fait. » Mon père m'a dit « Oui, mais là, là on est dans la vraie
quand
vie. »
Quand même, oui.
Là on est dans la vraie vie.
Judiciairement, comment ça se passe? Parce que, en fait, le papa de cet élève retire sa plainte,
ouais.
Mais on vous montre à deux psychologues.
Oui, pour le conseil de discipline, pour analyser un petit peu la situation, hein. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et là j'ai une première psychologue, une femme, qui m'interroge. Et je lui dis qu'en fait, j'ai complètement paniqué, que j'ai plus aucun souvenir, que j'ai vu noir, que j'étais en état de choc. Et j'ai vu que, en fait...
Vous pouviez l'embobiner.
Je pouvais l'embobiner et que je passais pour une victime. Et pour moi, passer pour une victime, ça m'assurait peut-être le fait de rester au lycée, de pas être exclu définitivement et de rester avec mes potes et tout ça. On fait voir un deuxième psy, je lui sors le même discours, la même salade. Il me laisse parler et à un moment donné, il me dit « Écoute, il dit moi, je t'arrête, j'y crois pas du tout. Je pense que tu l'as fait de sang-froid. Et ce qui fait de toi, il me dit, un psychopathe. Tu as pris plaisir à faire du mal, à faire saigner, et tu voulais vraiment ça. » Et là, moi, je me suis senti démasqué. Là, il me dit « Écoute, je vais te laisser une chance, c'est-à-dire qu'au conseil de discipline... on va rester sur la version que tu as paniqué, parce que si je commence à dire au proviseur que t'es un psychopathe, il risque d'avoir des demandes d'internement peut-être, ou des choses qui... voilà. Et derrière, je pense pas que ce soit la bonne solution pour toi. Il dit, je vais faire confiance à ton intelligence et à toi de gérer cette violence et de la tourner différemment.
Pour canaliser cette violence à laquelle il a pris goût, Philippe se lance dans les sports de combat. À 19 ans, il devient même vice-champion de France de full contact. C'est à la même époque qu'il découvre le GIGN et rêve d'intégrer cette unité d'élite qui lui paraît faite pour lui. Après l'obtention d'un bac S, le jeune homme fait son service militaire dans les parachutistes, ce qui ne l'empêche pas, pendant ses permissions, de travailler comme videur dans des boîtes de nuit.
J'avais pas le droit. Hein.
D'accord.
J'avais pas le droit. Mais c'était une ambiance qui me plaisait.
Et qui vous donnait l'occasion quand même.
D'en découdre
à chaque fois pratiquement.
Tous les soirs. Tous les soirs où je travaillais, je me battais. Mmh. C'était réellement une passion.
La baston.
Ouais, la baston. On n'était plus dans le combat sportif ou les arts martiaux. Non, j'étais vraiment dans la baston. C'était comme une drogue à un moment donné. Hein.
Alors, vos patrons, comment vous les situeriez, ces gens-là d'ailleurs? Parce que.
À l'époque, il y avait beaucoup de trafic. Donc, il y avait des trafics de drogue dans les boîtes de nuit. Il y avait un réseau mafieux, je sais pas si on peut dire mafieux dans la boîte de nuit, enfin, en ce qui concerne les patrons, mais ils avaient un business à défendre et ils n'avaient pas vraiment parfois de scrupules à nous envoyer dans des boîtes concurrentes qui fleurissaient, qui nous disaient, eux, vont nous faire de la concurrence, donc ce serait bien qu'ils ne fassent pas de soirée. Donc on y allait à plusieurs portiers et on mettait des coups de pression.
C'est-à-dire, des coups de pression à...
On se comportait mal dans la boîte, donc le patron venait nous voir et là on expliquait. On vient de telle boîte et ce serait regrettable que vous fassiez des soirées.
C'était carrément des missions d'intimidation.
C'était l'intimidation. Après, j'ai été approché par des gens qui flirtaient avec le monde de la mafia, et qui m'ont demandé des petites missions d'aller faire du recouvrement. J'étais capable de me mettre en colère comme ça, alors qu'au fond de moi, j'étais complètement zen. Et du coup, ça rendait les choses possibles. Donc, j'arrivais à récupérer l'argent, et je donnais donc... à la personne qui m'a mandaté, et j'avais mon pourcentage.
Votre commission.
Qui était importante à l'époque. Je gagnais l'équivalent d'une semaine en 5 minutes, 5-10 minutes.
Malgré l'argent facile, Philippe reste déterminé à intégrer le GIGN. Il passe brillamment le concours de gendarmerie, mais son comportement dans le civil pose problème. Impliqué dans plusieurs plaintes, il fait l'objet d'une enquête de moralité qui s'éternise. 2 ans passent, pendant lesquels le jeune homme continue d'évoluer sur le fil. C'est à cette même époque que Philippe rencontre sa compagne, future mère de ses 2 enfants.
Quand on s'est rencontrés au tout début de la relation, elle me dit « t'es musculeux, t'es bien musclé, tu fais des sports de combat », mais elle me dit « je t'imagine mal violent ». Parce que j'avais le sourire, je dis « je t'assure que dans mon travail, en boîte de nuit, je peux être extrêmement violent. Et d'ailleurs, j'ai une enquête de moralité qui dure, mais j'aimerais vraiment rentrer en gendarmerie. Et mon rêve, c'est de rentrer au GIGN.
D'accord.
Dans lequel je lui dis, voilà, je dis, si ça se passe, est-ce que tu es prête à me suivre? Elle me dit oui. Et je dis, si ça se passe pas, je dis, par contre, attends-toi, tu peux être la femme d'un mafieux. Parce que si ça se passe pas, je vais être en rupture. Je vais vraiment être en rupture.
Vous étiez quand même prêt à passer le pas, là,
j'étais
quand vous dites ça. Ouais.
J'étais pas loin, parce qu'à un moment donné, moi, je me dis, j'ai besoin d'argent. Mm-hmm. Parce qu'il y a de la manipulation aussi là-dedans. Moi, j'avais 20 ans. Quand un mafieux ou quelqu'un qui est un peu du réseau qui me dit, tu sais, ils vont bien te payer pour faire ça. Puis en même temps, ça va durer 10 minutes. Tu vas rien faire de mal.
C'est vite fait.
Tu vas pas tirer, tu vas pas planter, tu vas juste menacer. Et puis derrière, toi, tu vas avoir 10 000 francs, 50 000 francs.
Elle devait être longue, cette convocation à arriver, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus vous glissez, en fait.
Les demandes de contrat commencent à arriver, et puis et j'y crois plus. Alors ce qu'il y a, c'est que même dans mon entourage, les gens n'y croient plus. Je savais que je glissais vers quelque chose qui était hyper néfaste, mais en même temps, j'avais tué personne.
Non, mais
j'avais cassé des mâchoires, cassé des nez, des côtes. Je savais que c'était pas bien, que c'était illégal. Mais en même temps, j'étais pas un délinquant. Pour moi, j'étais pas un délinquant. Je pense que je faisais un déni de ce que j'étais. Je voulais pas regarder cette réalité en face.
Julien est gendarme et ami de Philippe depuis l'adolescence. Ensemble, ils fréquentaient la même salle de sport et faisaient le coup de poing dans les boîtes de nuit.
Ça te rappelle pas des vieux souvenirs à l'escadron, ça?
Un jour, Philippe a été approché par des figures du grand banditisme à la suite d'une bagarre particulièrement violente. Tout commence lorsqu'un ami, gérant de bar, appelle les 2 hommes à la rescousse.
Il nous dit il y a 12 gars dans le bar qui sont en train de me mettre un bordel pas possible. Ils urinent le long du comptoir, ils passent la main aux fesses aux clientes devant leur mari, ils sniffent de la coke
sur le comptoir du bar.
Oui, d'accord.
Et ils m'ont menacé de mort. On lui dit, écoute, si t'as besoin d'un coup de main, parce qu'il va falloir les sortir, tu peux compter sur nous.
Donc on est effectivement rentré dans ce bar, et puis gentiment on a emmené les gens dans le fond du bar, vers le piano, et discrètement. Et puis, après, on avait décidé d'un top action. Donc, top action, on a pris les individus...
Par surprise.
Comme ils sont venus, par le fond de la culotte. Et on a tout réussi à mettre les 12 dehors. On était quoi? On était 4, 5,
5? On était 4 au début. Sur les 12 dehors, il y en a 6 qui sont partis, qui ont compris que là, ça allait vraiment partir en pugilat. Hein. Mm-hmm. Et là, on s'est retrouvés à 3 dehors. Le frère de Julien et moi, et là, à se battre à coups de tabourets, de chaises, de tables, battes de baseball. Ils avaient tous des couteaux. Donc, ils venaient au contact et ils essayaient de... Donc, toutes les frappes qu'on pouvait faire le plus efficace possible, on faisait. Hein. Donc là, il n'y avait pas de limite, en fait. Hein. Ce soir-là, il y a eu des nez cassés, mâchoires, renfoncement de la cage thoracique. Pas de notre côté, hein.
Ce soir-là, vous atteignez quand même des sommets...
Au niveau de la violence.
Est-ce qu'il y a eu une vraie prise de conscience à partir de là?
Moi, ça m'a quand même... je me suis posé des questions. C'est-à-dire que le lendemain, j'étais auditionné à la brigade de gendarmerie. Et là ça a été des questions en me disant... Qu'est-ce que tu allais faire dans ce bar? Tu voulais jouer les gros bras? Tu crois qu'on a besoin de ça en gendarmerie? Parce qu'ils étaient en pleine enquête de moralité. Et ils me disent, est-ce que tu crois que t'as le profil vraiment, là, avec ce genre de comportement? Et moi, je dis, mais oui, parce que je défendais les gens qui étaient dans le bar. Non, tu t'es fait plaisir. C'était pas faux.
Vont venir des propositions émanant du milieu bordelais, à l'époque, qui voient en vous sans doute un avenir certain.
Ah oui, complètement, oui.
La mission, c'était quoi, donc?
La mission, c'était donc d'aller en Belgique, d'aller voir un patron d'une chaîne d'hôtels, de lui casser les deux bras et les deux jambes, de faire une photo, et de récupérer l'argent qu'il avait dans un coffre, dans son bureau, justement, dans la maison où il vivait. C'était un espèce de manoir qu'on m'avait annoncé. Et là, on me dit, voilà, lui, il doit 50 000 francs, mais on sait qu'il a entre 100 et 150 000 francs chez lui. De manière sûre. Mmh. Donc tout ce qu'il y aura en plus 50 000 francs, ce sera à toi. À l'époque, j'avais toujours pas la convocation gendarmerie. Et je commençais un peu à me résigner, quoi, à dire, bon, bah, ok, si mon avenir est là, si c'est la délinquance, eh bien, soit. Hein. Et autant gagner de l'argent. Et heureusement, la convocation est arrivée...
À ce moment-là.
Mmh. J'étais chez mes parents, et là, je vois un trafic gendarmerie qui arrive, qui se gare devant le portail de mes parents. Et ma première réaction, c'est la panique. Ils viennent me chercher, ils viennent m'interpeller. Peut-être que j'étais dénoncé. Et là, je vois un seul gendarme descendre du véhicule avec une feuille à la main et sonner. Donc, j'ouvre la porte. Et là, il me tend la feuille comme ça. Il me dit, enfin. Il me dit, maintenant, il va falloir arrêter les conneries. Et là, je fais...
Moi, cette violence... Elle avait besoin d'être encadrée. Il cherchait quelque part un père, quoi. Mmh. Un père pour encadrer cette violence et cette besoin de justice. Et finalement, la gendarmerie a tout offert.
In extremis, Philippe intègre donc la gendarmerie et tourne définitivement le dos à la délinquance. Après une année d'école et 2 ans dans la GM, la gendarmerie mobile, il passe les premiers tests pour entrer au GIGN.
Ce que j'avais peur, c'est que mes histoires d'avant me rattrapent. J'avais vraiment peur de ça, qu'il y ait un dossier qui ressorte. Et d'ailleurs, c'est ressorti même une fois, j'étais en stage brigade et j'ai été auditionné pour une histoire de bagarre de boîte. J'étais très mal. J'étais très très mal parce que ça venait à un moment où j'étais sur la fin de mon école et j'avais vraiment pas envie d'être sanctionné par rapport à ça. Et devoir quitter l'école gendarmerie, parce que j'étais vraiment impliqué. Pour moi, c'était la chance de ma vie.
Est-ce que vous parliez de votre passé à vos collègues, ou c'était quelque chose dont vous commenciez à prendre conscience que c'était pas terrible, ce passé-là?
J'ai mis du temps. Puis à un moment donné, j'ai commencé à dévoiler à quelques-uns. J'ai même dû expliquer au capitaine que j'avais quelques histoires en cours. Donc il m'a dit qu'il était au courant.
Les histoires, clairement, c'était des plaintes.
C'était des plaintes.
Suite aux bagarres que vous aviez en boîte de nuit.
C'était des dépôts de plaintes. Donc il m'a dit, écoute, tiens-toi tranquille. Ça va être une épreuve peut-être pour toi. Il va falloir se contenir parce que le garde mobile, c'est hyper compliqué. Pour quelqu'un comme moi, qui se retrouve face à des gens qui peuvent être menaçants, des manifestants. Nous, on représente l'État. représente leur ennemi, entre guillemets, et on prend des crachats, on prend des œufs pourris, quand c'est pas, des cocktails Molotov et des billes d'acier, quoi. Et il ne faut rien dire, se protéger, donc il faut savoir se maîtriser. Donc ça m'a aussi appris la maîtrise.
Justement, est-ce que il y a aussi un passage devant un psy avant de...
Il y a trois jours.
Trois jours.
Trois
qu'est-ce,
jours.
Qu'est-ce qui est ressorti de ça,
Que j'étais pas, que j'étais inapte.
Ah, que vous étiez inapte.
J'étais inapte. J'étais inapte du fait, je pense, de cette violence. Les questions des psys étaient très précises et j'ai répondu honnêtement.
Ouais.
J'ai répondu honnêtement, donc je pense que je voulais pas me cacher. Je voulais vraiment que le GIGN me prenne tel que je suis, quoi. Et il y a un instructeur qui m'a pris à part et qui m'a dit, écoute, moi, j'ai envie de te garder. J'ai envie de voir. On va continuer.
Malgré l'avis des psychologues.
Ouais. J'ai été agréablement surpris.
Ouais.
Parce que je pense que si j'avais été viré à ce moment-là.
Ça aurait eu des conséquences.
Ça aurait eu des conséquences dramatiques. Il est fort probable que je serais retourné vers les gens qui avaient confiance en moi.
Ouais, c'est-à-dire les bandits, quoi.
Bah complètement, ouais, c'était ça. Hein.
Alors que la moyenne d'âge est de 30 ans, Philippe n'en a que 24 lorsqu'il est finalement admis au GIGN. Un univers qui lui correspond, même s'il s'aperçoit que la violence qui le fascinait tant prend ici un tout autre sens. Notamment lors de certaines missions, où il est amené à pratiquer ce que l'armée appelle un tir de neutralisation.
La première fois, c'était dans une prison, où là, quelqu'un était pris en otage par un détenu. Et il a fallu négocier, il a fallu essayer de voir toutes les possibilités pour sauver l'otage. Et là, quand il a fallu se préparer pour le tir, il y a un mot qui m'est venu en tête, c'est « je suis un bourreau ». C'était même pas « je vais sauver une vie », c'est « je risque d'ôter la vie de quelqu'un ». Là, j'ai touché de la violence extrême, c'est-à-dire tirer sur quelqu'un de manière délibérée. Je prends une arme, j'y vais, je tire. Et malheureusement, le preneur d'otage décède quelques jours après, au suite de ses blessures. Et là, il y a vraiment une prise de conscience.
Comment est-ce que vous avez vécu ça ?
Ça remet beaucoup de choses en question quand même. Pas mon travail au GIGN, hein, parce que s'il avait fallu refaire ce tir dans une autre mission, un cas à peu près similaire, je l'aurais refait. Mais d'un point de vue même spirituel. J'avais libéré un otage, mais j'avais fait quelque chose, je vais pas dire de mal, mais il y a quand même une part de... C'est pas anodin. Ça fait pas forcément de moi, je me sens pas criminel. Je ne suis pas un assassin. Je suis un gendarme du GIGN qui a fait son travail et qui doit vivre avec ça. Voilà. Alors, j'ai vu ensuite des psychologues. Ils m'ont dit, quelque part, c'est bien que tu ne sois pas complètement indifférent à l'acte. Ça prouverait que là, vraiment, t'es un psychopathe. Ils m'avaient qualifié de psychopathe, ouais, pourtant, ouais. Des années d'avant. Et là, j'ai remarqué que non, j'étais peut-être... Alors, peut-être que j'ai évolué.
Stable dans sa vie affective, en phase avec son métier, Philippe n'a pas seulement évolué, il a mûri. Durant ses 14 ans au sein du GIGN, il a réussi à canaliser sa violence et la mise au service de la loi, ce qui fait de lui un homme épanoui et reconnu par ses pairs. Et aujourd'hui, Philippe me semble avoir tiré les enseignements de ses erreurs de jeunesse.
Ça a été une période assez négative quand même. Hein. J'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et j'ai exercé beaucoup de violence sur des gens qui ne méritaient pas, très certainement pas, autant de violence, ouais. Autant de blessures et peut-être même des séquelles. Et les raisons de ces blessures que j'ai pu occasionner à des personnes, elles sont injustes.
Ouais.
Elles sont injustes. Et moi qui combats l'injustice, je dois reconnaître que oui, j'étais injuste. Donc, c'est une erreur. C'est une erreur, elle est... Et là-dessus, j'ai pas recroisé hein, de personnes. Mais je pense que si j'avais des gens en face de moi à qui j'ai occasionné des blessures graves, je pense que je demanderais pardon.
Ouais.
L'âge de la retraite sonne très tôt pour les gendarmes du GIGN. À 40 ans, Philippe se prépare un nouvel avenir avec l'écriture d'un livre sur son parcours et un retour à ses premières amours, les sports de combat, mais cette fois uniquement pour le cinéma.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.